Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Dans différents pays d'Afrique francophone, comme ailleurs dans le monde, beaucoup de personnes ont vécu ou continuent de vivre des expériences extrêmement éprouvantes. Ces expériences peuvent engendrer des séquelles que l'on peut qualifier de traumatismes psychologiques. Je voudrais apporter une aide aux personnes qui souffrent de ces traumatismes, ainsi qu'à celles et ceux qui entourent ces personnes. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à une psychologue chrétienne. Elle s'appelle Anaïs, et pendant plusieurs émissions, elle va nous faire part de son savoir et de ses conseils. La dernière fois, Anaïs nous a parlé de divers symptômes qui peuvent se manifester lorsqu'une personne souffre d'un stress post-traumatique. Aujourd'hui, elle va nous parler d'autres séquelles. Dans un premier temps, Anaïs nous expliquera en quoi ces traumatismes peuvent nuire aux relations personnelles.
Souvent, après un traumatisme, les gens veulent être seuls ou ils veulent s'isoler socialement. Ils se renferment un peu sur soi-même. Il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes de colère et être très irritables, très facilement fâchés. Il y en aura d'autres aussi qui auront du mal à faire confiance. Ils seront méfiants. Si le traumatisme a été suite à quelque chose de mal qui a été fait envers eux, donc en fait, ils auront beaucoup de mal à rétablir la confiance. C'est le cas, par exemple, de gens qui ont souffert un viol. Une femme qui a souffert un viol, elle aura du mal à faire confiance à un homme, à nouveau. C'est une réaction assez typique. Il y a des gens qui vont décrire leurs amis qui ont souffert des traumatismes comme s'ils avaient changé de personnalité après ce qui s'est passé. Ils vont dire « Oh, ce n'est plus la même personne, c'est quelqu'un d'autre ».
L'un des objectifs de cette série d'émissions est de sensibiliser les familles et les amis de celles et ceux qui ont vécu des événements traumatiques. Il est particulièrement important de comprendre que ces traumatismes peuvent perturber les relations personnelles qui, auparavant, étaient bonnes. Il est vrai que la personnalité d'une personne traumatisée peut changer et présenter des aspects qui vont rendre difficiles les relations personnelles. Il est alors très important que l'entourage comprenne ce qui se passe et que la famille et les amis fassent preuve de patience et de douceur, de compassion et de grâce envers la personne traumatisée. Nous reconnaissons qu'une telle situation est difficile et douloureuse pour l'entourage. Les traumatismes peuvent être la cause de tensions et de conflits, surtout là où l'incompréhension s'installe. De ce fait, les familles de celles et ceux qui sont traumatisés ont besoin de soutien, d'être conseillés, tout autant que la victime. À présent, Anaïs nous parlera des attitudes difficiles que l'on peut avoir envers les personnes traumatisées.
Ce qui va être très difficile, c'est qu'il y a souvent de la stigmatisation de la part des gens qui sont autour, de la famille, etc. En particulier quand il s'agit de choses qui sont honteuses pour la société. Donc par exemple, une femme qui a été violée, il y a beaucoup de sociétés où une femme qui a été violée n'est plus pure et en fait, elle va être rejetée par son mari. Et ça, ça ne fait que contribuer au traumatisme parce qu'au lieu de soigner cette blessure du cœur, elles peuvent être rejetées encore davantage par la société et par leur communauté, et cela ne fait que rajouter à la blessure et au traumatisme. Donc en fait, il y a toutes ces difficultés qui sont d'abord pour l'individu, mais aussi dans la société où l'individu se trouve.
Oui, la stigmatisation est une réalité que nous voulons dénoncer. Si une personne traumatisée est mal comprise, méprisée ou rejetée, sa guérison en deviendra plus difficile encore. En fait, en stigmatisant une personne, c'est comme si on rajoutait un deuxième traumatisme sur le premier. Souvent, la stigmatisation trouve ses origines dans les tabous, les interdits, les traditions enracinées dans les cultures locales. Mais nous sommes convaincus que Jésus-Christ nous appelle à surmonter tous ces préjugés et à adopter une approche plus compréhensive et compatissante envers la personne traumatisée. Anaïs poursuit.
Le traumatisme, c'est quand on perd quelque chose. Soit on perd la sécurité, on perd la santé, on perd quelqu'un qu'on aimait, on perd l'endroit où on habitait suite à une catastrophe naturelle, par exemple. Mais il y a certaines pertes qui sont particulièrement difficiles. Par exemple, quand il y a beaucoup de gens qui sont décédés en même temps, ou bien quand le décès ou la perte est soudaine ou inattendue, quand la mort de quelqu'un est très violente, ça peut être aussi beaucoup plus dur. Par exemple, il y a des situations où l'on ne trouve pas de cadavre à enterrer. Et ça, c'est encore plus difficile aussi de surmonter quand on ne retrouve pas la personne qu'on a perdue et on ne peut pas l'enterrer. Et aussi quand il n'y a aucun moyen de confirmer que la personne est décédée. C'est des pertes qui sont d'autant plus traumatiques, en fait. Et aussi quand le décès, c'est un suicide ou un meurtre. Donc, toutes ces situations font que la personne soit plus susceptible d'expérimenter du stress post-traumatique.
Merci. Nous comprenons que la nature, la durée et la gravité d'un événement traumatique peuvent engendrer des symptômes de stress post-traumatique plus ou moins intenses ou fréquents. Ces traumatismes psychologiques sont complexes et les symptômes qui peuvent se présenter varient d'un individu à l'autre. C'est pourquoi écouter patiemment son prochain afin de bien comprendre ses besoins et mieux cerner la façon de l'accompagner est primordial. À présent, Anaïs insiste sur le fait que les événements traumatiques produisent non seulement des séquelles dans la vie de la personne qui les vit, mais aussi des retombées sur son entourage et la communauté dans laquelle elle évolue.
Le traumatisme, c'est quelque chose qui affecte l'individu, mais aussi son entourage. Et c'est très important de savoir que souvent, quand il y a un événement traumatique qui se passe, ce sera complexe, c'est un peu comme un oignon. Un oignon, ça a différentes couches. Et l'individu, au centre, il est affecté, mais sa famille est affectée aussi. Et sa communauté aussi, son lieu de travail. Et peut-être la société en général est aussi affectée. Et c'est pareil quand un événement traumatique affecte toute une communauté. Par exemple, une catastrophe naturelle ou bien une attaque de rebelles dans un village, par exemple, ou bien une attaque terroriste qui affecte plusieurs personnes en même temps. Il faut toujours voir comment ça a affecté l'individu, mais aussi les effets ricochets.
Il est normal de se préoccuper du bien-être d'une personne qui a subi des traumatismes psychologiques. Mais Anaïs insiste pour dire qu'il ne faut pas oublier non plus la famille et l'entourage de ces personnes. La famille se trouve dans une situation difficile, car elle est appelée à bien comprendre la personne traumatisée, à agir envers elle avec amour, patience et douceur. Cependant, elle aura aussi à gérer ses propres émotions et ses propres réactions face à ce qui s'est passé. Il est donc nécessaire d'accompagner non seulement la personne traumatisée, mais aussi soutenir les proches et l'entourage. Il ne faut pas les oublier, ni les négliger. Nous apprenons donc que les conséquences des traumatismes psychologiques touchent à tous les domaines de la vie. Toutefois, il se trouve un dernier domaine que nous n'avons pas encore abordé, celui de la foi et de la vie spirituelle.
Souvent, les gens ont du mal à concilier le fait que si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis cela? Pourquoi est-ce qu'il a permis que cette personne meure de façon soudaine? Et c'est des grandes questions que l'on se pose après une perte comme ça et après un traumatisme. Dans mon expérience, je crois que c'est bon que l'être humain se pose ce genre de questions. On lit dans la Bible, le Seigneur ne rejette jamais ce genre de questionnement. Il ne rejette jamais notre soif de justice, mais aussi il invite nos expressions de frustration, notre lamentation. Il veut toujours qu'on court vers lui quand on a des problèmes. Et c'est surtout quand quelqu'un a souffert des traumatismes qu'il faut les encourager à aller vers le Seigneur. Parce que c'est des moments où ils vont perdre cet espoir que Dieu est bon et que Dieu est là et qu'il a tout sous contrôle. Mais c'est vraiment tout à fait normal que quelqu'un ait des doutes par rapport à la foi, surtout après des événements traumatiques.
Nous voulons insister sur le fait que le doute est normal. Les événements traumatiques peuvent susciter de très grandes interrogations. L'on arrive à se poser des questions profondes, importantes et douloureuses. Une fois de plus, il faut s'approcher de ceux qui souffrent avec compréhension et patience. Oui, nous désirons les conduire du doute à la confiance, mais cela prendra du temps. Alors, il ne faut pas se montrer sévère envers ces personnes quand les doutes surgissent suite à leurs terribles afflictions. Il ne faut pas, non plus, leur faire des reproches, les critiquer. Je voudrais encourager toute personne traumatisée, toute personne plongée dans le doute et le désespoir, à s'exprimer librement devant Dieu. Nous trouvons dans les psaumes des cantiques de lamentation, dans lesquels l'auteur exprime avec honnêteté toutes ses émotions, toutes ses pensées, ses doutes et son désespoir. Anaïs a expliqué qu'il est nécessaire que toute personne traumatisée s'exprime librement, en un endroit sûr, au lieu de refouler ou de supprimer ses sentiments. Raconter ce qui s'est passé, exprimer toute sa douleur et sa rage, représente une étape importante vers la guérison. Alors même si vous n'osez pas vous exprimer devant les personnes qui vous entourent, vous pouvez tout dire à Dieu. Il vous écoutera, sans jugement. Même si vous avez du mal à faire confiance aux autres, Dieu est là, et vous pouvez lui faire confiance, lui apporter tous vos doutes, toutes vos questions. Vous pouvez lui raconter toute votre douleur. Écoutons à présent l'extrait d'un psaume de lamentation. C'est le psaume 13, des versets 2 à 5.
Jusque à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand seras-tu loin de moi? Jusque à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusque à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira qu'il a gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute.
Nous constatons que l'auteur du psaume, David, s'exprime librement et honnêtement devant Dieu. Ses paroles reflètent ses doutes et la douleur qui l'assaille. Nous pouvons suivre son exemple et nous tourner vers Dieu pour lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Mais les psaumes de lamentation finissent souvent sur une note de confiance. C'est pencher devant Dieu, s'ouvrir à lui, entrer dans sa présence, peut nous aider à entendre sa voix et recevoir son amour. À force de nous tourner vers lui, pour tout lui dire, il nous aide à retrouver une certaine confiance et à vivre une sérénité nouvelle. Écoutons à présent le dernier verset du psaume 13.
Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits.
David est passé d'un cœur affligé par la douleur et les doutes à un cœur rempli de confiance et de joie. Nous ne savons pas combien de temps cela lui a pris pour passer de l'un à l'autre. Toutefois, aujourd'hui, nous vous le disons, si vous vivez avec un traumatisme, nous comprenons votre douleur, vos doutes et vos interrogations. Et nous prions afin que l'Éternel vous conduise vers la confiance et la paix. Nous ne savons pas si ce chemin, celui qui mène à la guérison, sera long ou court, mais nous savons que l'Éternel sera à votre écoute et qu'il est un Dieu digne de confiance. Nous remercions Anaïs pour sa participation à nos émissions. Elle sera de retour la prochaine fois et elle nous fera part de quelques conseils destinés à aider les personnes affligées par les traumatismes psychologiques à progresser vers la guérison. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Pour obtenir plus d'informations en français sur les traumatismes psychologiques, vous pouvez aller en ligne et consulter le site du Trauma Healing Institute. Je l'appelle https://trauma-healing-institute. Donc le site traumahealinginstitute.org/resources.